Personnages insolites sur Radio Grand Ciel. Au micro, Elisabeth Couget. Bonjour à tous et avant tout, bonjour à Christine.
Bonjour.
Qui se joindra à moi pour vous raconter la vie de notre personnage insolite d'aujourd'hui.
Oui, bonjour Elisabeth, je serai ravie aussi de présenter avec toi la vie de celle qui était non seulement un personnage insolite...
En quoi elle aura parfaitement sa place dans notre émission, mais elle était aussi un très célèbre personnage historique. Mais aujourd'hui, notre sujet n'est pas l'histoire, ou pas seulement, et nous parlerons de la vie assez insolite de la Grande Catherine.
Ou Catherine de Russie. Dis-moi, Elisabeth, elle n'était pas russe pourtant?
Non, non, elle n'était ni russe, ni grande.
Bon, du moins par la taille. Mais avec le temps, elle a tout à fait mérité cet adjectif de grande que l'on a rajouté à son nom.
Exactement. Alors son nom, qui d'ailleurs, à l'origine, n'était pas Catherine non plus. En effet, Sophie Augusta, attention, Friederika Anhalt-Zerbst,
oui.
Petite princesse de Prusse orientale, est née en Poméranie, dans la ville de Stettin, en 1729.
Et c'est en Pologne aujourd'hui.
Exactement, tout à fait.
Stettin n'est pas la ville de Solidarność, où œuvrait Lech Walesa dans les années 90?
Ah oui, tout à fait, Christine. Tout à fait, c'est ça, exactement. Mais revenons peut-être vers notre personnage insolite, donc la princesse Sophie Augusta. Je vous fais gré de son nom imprononçable. Donc, elle arrive en Russie, donc de la Poméranie, en février 1744 et découvre immédiatement les fameux hivers russes. Très vite, la future fiancée est présentée au grand-duc Pierre de Russie.
Et c'était qui exactement le grand-duc?
Le grand-duc était le petit-fils du tsar Pierre le Grand. C'est pour ça d'ailleurs qu'il portait son nom, Pierre. Le tsar n'a pas eu de fils, mais plusieurs filles des nombreux mariages qu'il a contractés. Anna, sa fille aînée, a épousé le prince de Holstein et vivait donc en Allemagne. Et c'est elle qui a donné à la Russie l'héritier tant attendu, Pierre. Le jeune grand-duc, vivant en Allemagne, surtout grandissant en Allemagne, n'avait pas grand-chose de russe. La tsarine Elisabeth, qui était au moment de l'arrivée de Sophie Augusta en Russie, la tsarine, voilà, c'est ça, puisque c'était une femme, comme je dis, c'était l'autre fille de Pierre le Grand. Elle était tellement malheureuse d'un amour perdu, qu'elle n'a jamais voulu se marier, n'avait donc pas de descendance. Alors, elle adorait effectivement son neveu avant même sans la connaître, car elle avait un amour pour sa sœur Anna qu'elle n'a malheureusement plus jamais revue depuis son mariage en Allemagne. La tsarine était d'autant plus heureuse à l'idée de l'arrivée du jeune Pierre à Saint-Pétersbourg, qui allait assurer ainsi la continuité des Romanov sur le trône de la Russie.
À quel moment est mort Pierre le Grand?
En 1725, 10 ans avant son voyage, après son fameux voyage en France, où il a rendu visite, entre autres, à Madame de Maintenon, à Saint-Cyr, dans l'Institut des jeunes filles qu'a créé l'épouse morganatique du roi Soleil vieillissant.
Donc, Pierre le Grand n'a pas connu son petit-fils, car le jeune duc est né en 1727, deux ans plus tard.
Absolument. Alors, que pensait la tsarine? Alors, cette tsarine, elle pensait de son neveu tout le bien possible. Elle était, mais en le voyant, elle était extrêmement déçue. Comme sa sœur Anna n'est jamais revenue dans son pays natal, comme c'était toujours le cas dans le temps, avec les mariés des jeunes princesses, elle partait définitivement et ne revenait plus jamais. Avec l'arrivée de son neveu, c'était comme si Elisabeth allait retrouver sa sœur Anna bien-aimée. Sa déception était d'autant plus grande que Pierre ne représentait pas du tout à ce qu'elle attendait. Non seulement il ne parlait pas le russe, mais il n'avait vraiment rien d'un russe. Et pas dernièrement, il avait un réel problème avec la religion.
Venant d'Allemagne, Pierre n'était très certainement pas orthodoxe.
Absolument pas. Au contraire, il était luthérien et n'avait aucunement envie de changer de religion. Il le fallait pourtant pour pouvoir devenir grand-duc de la Russie et éventuellement tsar plus tard. Alors, il va abjurer sa foi luthérienne et sera reçu dans l'Église orthodoxe en vue d'être le tsar de toute la Russie. Seulement, Pierre va détester tout ce qui l'entoure, à commencer par sa tante, la tsarine Élisabeth. Pour supporter tout ce qu'on lui a imposé dans son nouveau pays, il lui reste les crises de colère incontrôlables, relayées par des beuveries avec ses maîtresses, ou jouer aux soldats de plomb comme un petit garçon dans ses moments calmes.
Quel tableau.
Oui, c'est ça.
Donc la tsarine est très déçue car elle espérait beaucoup. Donc elle espère beaucoup dans la venue de cette petite princesse poméranienne qui peut-être que Sophie Augusta pourra changer le caractère du grand-duc.
Alors après une pause musicale, nous verrons bien si Élisabeth la tsarine avait tort ou raison dans la suite de notre émission. Dans cette deuxième partie de notre émission Personnages insolites sur Radio Grand Ciel, nous retrouvons la future tsarine, la princesse poméranienne Sophie Augusta, tout juste arrivée en compagnie de sa mère à Saint-Pétersbourg en février 1744.
Que pensait la jeune princesse de la Russie ?
Bien, c'est... Bon. Elle disait, c'est un autre pays. Ça, c'est vrai que la Poméranie qui l'accueille, tout est différent. La langue, la religion et tout ce qui l'entoure. Mais contrairement au grand-duc, Sophie Augusta aime tout de la Russie. Elle veut apprendre le russe et elle veut tout découvrir.
Et comment est la princesse physiquement ?
Alors, elle n'est pas vraiment belle. Elle est assez petite. et elle est lucide, armée d'une volonté de faire. Dès son arrivée à la cour, son but est fixé. Elle veut être la reine de ce pays.
C'est normal, elle est venue pour cela. Depuis le moment où elle a reçu la lettre de la tsarine, elle se voit déjà reine de Russie.
Effectivement, la tsarine Elisabeth l'a choisie dans ce but. Mais avec son arrivée à la cour, son avenir n'était pas pour autant assuré.
Et l'impératrice, que pense-t-elle de la petite Sophie Augusta ?
Eh bien, Elisabeth l'apprécie d'emblée. Par contre, le grand-duc Pierre est plus que déçu par sa future fiancée.
Pourquoi ?
Ben, parce qu'il s'attendait à trouver une camarade de jeu. Alors que Sophie Augusta, malgré son jeune âge, est déjà une vraie petite personne qui va tenter de tout absorber, de tout apprendre, tandis que lui, il va retourner à ses jeux grossiers et ses beuveries et à ses jeux de petit garçon.
Et pendant ce temps-là, que fait la tsarine ?
Elisabeth reprend sa vie oisive d'avant, ses amours et ses plaisirs. Car, quoique célibataire, elle n'a pas fait vœu de chasteté, loin de là. Et s'enivre dans le tourbillon des fêtes, des réceptions, des bals, des banquets qu'elle organise. Et pour faire pardonner ses péchés, elle part en retraite au monastère de la Trinité. Car malgré ses nombreuses incartades, elle est très attachée à la religion.
Tu peux nous dire encore autre chose à propos d'elle ?
Oui, elle, en plus d'aimer faire la fête, Elisabeth était une personne capricieuse, pour ne pas dire caractérielle. Donc, pour la petite princesse, tout n'était pas gagné. Pourtant, son entourage l'aime beaucoup et la tsarine veut accélérer les choses. Ainsi, 4 mois seulement après son arrivée, Sophie Augusta devient orthodoxe, change de prénom, puisqu'Elisabeth n'aimait pas Sophie. Et c'est ainsi qu'elle deviendra Catherine.
La voilà donc, la future grande Catherine.
Et tout, c'est en tant que Catherine qu'elle deviendra la fiancée du grand-duc. Elle va apprendre le russe, suit imperturbablement la route qu'elle s'est tracée.
Et que voulait-elle exactement ?
Devenir impératrice. Et pour obtenir cela, il fallait ménager la confiance du grand-duc, gagner l'affection du peuple et surtout plaire à l'impératrice. Et elle y arrivera. 1 an et demi après son arrivée en Russie, le mariage princier a lieu. Bien entendu, selon le rite orthodoxe, de ce fait, Catherine deviendra la grande-duchesse de Russie et épouse du futur tsar. Mais pour autant, tout n'est toujours pas gagné.
Pour quelle raison ?
Mais parce que l'impératrice Elisabeth est tyrannique, despotique, et dont l'unique devise pourrait être « tel un autre caprice ». La vie de Catherine n'est pas facile. Pierre ne l'aime pas, l'humilie constamment. Il vit avec sa maîtresse en titre, et il se comporte comme un enfant méchant. La cour de Russie est dangereuse. Elle risque d'y perdre la faveur de la tsarine. Et Catherine doit être à chaque instant sur ses gardes.
Ils vivent tous ensemble à la cour, aux côtés de l'impératrice ?
Non, le jeune couple a sa propre cour, mais Elisabeth les traite comme des gamins irresponsables. Pourtant, futurs souverains, et qui n'ont pourtant aucun pouvoir, et vivent dans une sorte de cage dorée.
Et surveillés en même temps par les espions de la tsarine, ce qui devait être très difficile à supporter pour Catherine.
Oui, effectivement. Mais Catherine est forte. Elle sait ce qu'elle veut, et elle sait que l'impératrice ne l'aime pas trop.
Comment réagit-elle ?
Elle reste imperturbable devant les injustices d'Elisabeth et l'indifférence de son mari à son égard. Cet homme pervers, peureux, qui aime humilier les faibles. Elle est très seule, mais ne craque pas. Catherine poursuit son but. Elle veut devenir impératrice en temps voulu. Et puis, un jour, dans sa solitude quand même, elle tombe amoureuse. et même elle tombe enceinte. Alors le petit prince Paul, était-il le fils du grand-duc ou non? Pour la tsarine Élisabeth vieillissante, cela n'a aucune espèce d'importance, car la descendance est assurée et c'est l'unique chose qui l'importe.
Et il était temps, me semble-t-il.
Et oui, tu as raison Christine, car le jour de Noël 1761, Élisabeth rendra son dernier soupir. Catherine est sur la dernière marche avant d'atteindre son but et cela arrivera. Mais après une nouvelle pause musicale, écoutez Radio Grand Ciel au micro Élisabeth Couget en compagnie de
Christine Afota.
Et dans notre émission Personnages insolites où nous parlons de la grande Catherine, nous arrivons à la prise de pouvoir de l'ex-petite princesse poméranienne.
Mais elle n'y est pas encore.
Eh non, et loin de là. Il est vrai que la tsarine Élisabeth vient de mourir, qu'elle est déjà grande-duchesse, mais la tsarine, bien sûr, a laissé le trône à son neveu Pierre, le grand-duc, et à son épouse aussi, mais ils ne sont pas encore sacrés. Et il n'y a pas que ça. Pierre et Catherine ne sont pas les seuls prétendants au trône.
Ah ah, de qui veux-tu parler, Élisabeth ?
Eh bien, de Ivan VI, qu'Élisabeth maintenait emprisonné depuis sa tendre enfance. Ivan VI a 30 ans. Et il considère qu'il est plus que temps pour lui de prendre sa place, qu'il lui revienne cette place, normalement. Seulement, le trône n'est plus libre.
Car le grand-duc s'est proclamé empereur, et le voici devenu Pierre III.
Oui, mais Catherine n'est que sa femme, ou à peine, et tout juste tolérée. D'ailleurs, le nouveau tsar clame haut et fort à qui veut l'entendre qu'il la chassera de Russie dès qu'il sera sacré. Son attitude durant le deuil de la tsarine Élisabeth est inqualifiable et choque le pays entier. Tandis que le comportement de Catherine éblouit tous et leur paraît encore plus exemplaire. Le nouveau tsar, sans attendre d'être sacré, ordonne très maladroitement des lois avec lesquelles il s'aliène l'Église, l'armée, sans parler du peuple. Et avec une réelle insouciance, il blesse l'âme russe en se moquant de la religion. Et là, c'en est vraiment trop pour eux.
Et Catherine, que fait-elle pendant ce temps-là ?
Eh bien, en bonne mante religieuse, elle observe, attend le moment propice pour intervenir. 6 mois se sont passés depuis la mort de la tsarine Elisabeth. Alors, il serait peut-être temps. Catherine n'est pas seule, elle est soutenue par les 3 frères Orlov, dont l'un, Grigori, est son amant. Les frères Orlov tiennent l'armée en main, et avec l'armée, tout est possible. Même un coup d'État, mené contre le nouveau tsar, devenu de plus en plus dangereux. Il sera réussi, et ce qui lui donnera le plein pouvoir.
Et le tsar, Pierre III ?
Eh bien, comme il n'a jamais été couronné, donc pas sacré, le destituer n'est pas vraiment un crime de lèse-majesté. Mais de là à le tuer, et pourtant, c'est cela qui se passera.
Et qui exactement l'a tué ?
Alors voilà une bonne question. C'est Alexis, l'autre frère Orlov, qui annoncera à l'impératrice la mort de son mari. Mais à savoir qui l'a étranglé et dans quelles conditions, on ne le saura jamais. 2 mois plus tard, Catherine sera couronnée à Moscou au cours d'une longue, longue cérémonie religieuse. Elle vient d'avoir 33 ans. Elle n'est pas encore la grande Catherine, mais la deviendra.
Je pense que nous n'allons pas détailler ici le règne de Catherine.
Non, bien sûr, mais pour encore mieux saisir notre personnage insolite d'aujourd'hui, il faut parler de ses amours, de ses relations, de ses décisions, etc.
Il y avait déjà Grigori Orlov.
Oui, et ses frères, voilà, qui étaient autour d'elle, et qui l'ont aidée à accéder au pouvoir. Mais à la longue, ils sont devenus un peu trop présent, trop envahissant. D'autant plus que ses nouvelles amours avec Stanislas Poniatowski a apporté à la Russie une bonne partie de la Pologne. Et donc, voilà, elle préférait Poniatowski.
Et au fait, pendant ce temps-là, que devenait Ivan VI ? Toujours enfermé ?
Non, mais c'est tout comme. Car au cours d'une tentative d'évasion organisée par des ennemis de Catherine, parce qu'elle en avait quand même, il meurt malencontreusement.
C'est encore la mort d'un prétendant au trône qui entache ce début de règne, qui commence à avoir un drôle d'écho en Europe.
Pourtant, l'immense majorité des Russes la vénèrent, l'appellent la petite mère. Plus tard, même les Soviets reconnaîtront ses mérites. Et ce n'est pas peu dire. Hein. Catherine II a énormément fait pour moderniser, développer la Russie, comme par exemple réformer l'enseignement en créant un système d'éducation révolutionnaire pour son époque. Un peu comme Madame de maintenant, donc c'est pour les filles, elle faisait un effort pour les femmes. Catherine a créé l'Institut Smolny, dont on a beaucoup parlé plus tard au moment de la Révolution d'octobre, puisque Lénine, c'est là qu'il tiendra son premier discours. Voilà, donc l'Institut Smolny a été magnifique. Tout était fait pour l'éducation des jeunes filles nobles. Catherine a réorganisé aussi l'administration de la Russie, relancé le commerce, développé l'industrie, etc., etc.
Et sa relation avec Voltaire ?
Eh bien, Catherine le connaissait, Voltaire, et qui est venu en Russie. Et à sa mort, la grande Catherine rachète toute sa bibliothèque, que la France ne voulait pas, qui était considérable, que l'on peut voir à Saint-Pétersbourg encore. En plus de Voltaire, la grande Catherine correspondait avec d'autres personnes, des philosophes en Europe, comme Diderot ou d'Alembert. D'ailleurs, tous l'admiraient beaucoup. La nommaient l'étoile du Nord, une souveraine géniale, Minerve du Nord, enfin,
c'est
tout
beau.
Ça.
Oui. Et c'est pourtant durant son règne qu'il y a eu la révolte de Pougatchev.
Oui, qui va embraser la campagne russe durant un long moment avant d'être écrasée dans le sang.
Catherine a eu d'autres amours encore ?
Oui, c'était une grande amoureuse, jusqu'au bout. Hein. Il y a eu encore Potemkin, le héros de la lutte contre les Turcs, et beaucoup d'autres anonymes jusqu'à la fin de sa vie.
Le système féodal n'a pas disparu en Russie durant le règne de la Grande Catherine, je crois.
Oui, et c'est vrai, c'est ce qui reste qui était un frein, finalement, dans toutes les réalisations de Catherine et dans l'avancée vers le XIXe siècle. C'était une guerrière et les guerres étaient toutes victorieuses qu'elle a menées. C'est ainsi qu'elle a rajouté, alors tenez-vous bien, plus de 520 000 km² à la surface de la carte de la Russie.
C'est presque la France entière.
Oui, c'est énorme. Hein.
On peut donc parler d'un règne à succès.
Oui, et je voulais encore signaler les magnifiques constructions qui rappellent encore son époque, comme le somptueux Palais Catherine à Tsarskoye Selo, ou Pushkin, comme appellent les touristes, ou le superbe université Lomonosov, qui était, n'oublions pas, un grand philosophe et physicien russe qui est né en 1711, donc qui vivait à l'époque de Catherine.
Et le fils de Catherine, Paul,
il va la décevoir jusqu'au bout. C'est son petit-fils qui sera sa consolation. Comme cela arrive quelquefois, la fin du règne de Catherine sera triste. L'étoile du Nord s'éteindra dans la solitude. Son fils lui fera offense d'enlever les insignes impériaux de son cercueil lors de ses obsèques. Il a découronné, et pour rien. Elle avait été et restera à jamais Catherine la Grande.
Et voici donc notre personnage insolite d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.
Sur Radio Grand Ciel, bien sûr, où nous vous attendons dans un mois pour vous faire découvrir un autre personnage insolite. À bientôt.
À bientôt.